invité. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui l'abdication de l'empereur du Japon.
Et oui, et peut-être le déclin du Premier ministre, l'abdication en tout cas de l'empereur Akihito, première depuis 1817. C'est son fils Naruhito qui devient aujourd'hui le 126e empereur à 56 ans. Abdication d'une fonction donc sans pouvoir constitutionnel, alors que le pouvoir réel, celui de Shinzo Abe, Premier ministre, pourrait peu à peu s'effriter. On voit ça avec vous, Franck Michelin, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Merci d'être avec nous au téléphone en direct depuis Tokyo. Vous êtes historien du Japon à l'université de Teikyo, auteur récemment de La guerre du Pacifique a commencé en Indochine, aux éditions passées composées. Alors qu'on s'attache juste à la cérémonie rapidement, donc les deux empereurs ont souligné tous les deux ce caractère de symbole de la fonction impériale. La constitution de 47 définit l'empereur comme symbole de l'État et de l'unité du peuple. C'est la fin d'une ère de 30 ans, 10 minutes de cérémonie hier, 6 minutes aujourd'hui, à huis clos, sans rassemblement notable. C'est une sobriété politique particulière ou parce que la population s'en est désintéressée?
Question difficile. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une période de congé de 10 jours, quelque chose qui n'est jamais arrivé ici, puisqu'avec l'accession au trône d'un nouvel empereur, il y a eu des jours fériés supplémentaires. Une bonne partie de la population n'est pas à Tokyo et la plupart des magasins et des services publics sont fermés ou en service réduit. Donc il y a un petit peu des deux. Il est clair qu'il est un petit peu difficile ici de saisir un événement qui est tout à fait nouveau puisque on n'a jamais vu au Japon, comme vous le savez, depuis 200 ans, une abdication. En plus, il y a 200 ans, le système impérial était extrêmement peu connu et certainement pas médiatisé comme il l'est aujourd'hui. Donc là, on a une situation assez nouvelle avec un empereur toujours vivant qui s'est retiré et son fils qui prend la succession. Donc on ne sent pas vraiment une ferveur extraordinaire, mais bon, tout de même, dans les médias, on ne parle que de ça depuis déjà quelques jours et aujourd'hui, c'est un petit peu 24 heures sur 24 ou presque des informations liées à la famille impériale.
Alors c'est une abdication qui avait été annoncée déjà en 2016 par l'empereur Akihito. Il avait dit je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État puisqu'il avait été plusieurs fois malade et qu'il l'est toujours vieillissant. Vous avez souligné que c'est le premier effectivement à abdiquer volontairement depuis 1817. Est-ce que c'est pas déjà une décision politique en ce sens?
Oui, peut-être un petit peu. Il est difficile de sonder exactement ce que pense l'empereur, surtout que, je dirais d'une façon traditionnelle, mais surtout en raison de la constitution de 1947, l'empereur n'est pas censé intervenir dans le jeu politique. Maintenant, il est assez clair depuis quelques années qu'il n'approuve pas la politique menée par le Premier ministre sur un certain nombre de points et que son abdication, même si elle n'est peut-être pas due véritablement à une forme de désaveu, peut prendre peut-être un petit peu cette couleur. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose, mais là il faut être extrêmement prudent.
Alors on va reparler des rapports entre l'empereur et le Premier ministre. Si on reste sur Akihito, l'empereur qui vient de quitter le pouvoir, le père de Naruhito, quel est son legs, diriez-vous, dans ces terres qui a duré 30 ans, donc qui était celle de l'accomplissement de la paix? Alors c'est le fils, bien sûr, de Hirohito. Avant qu'on parle de la politique ou de la géopolitique et de l'histoire, un legs social, on a beaucoup dit pour son rôle après notamment le tsunami.
Oui, bah énormément. Alors, il faut savoir d'abord que c'est l'empereur véritablement de la constitution de 1947, puisque son père était passé de l'ancien système, et notamment de la période de la guerre, à un système d'empereur symbole en vertu de la nouvelle constitution de 1947. Mais cet empereur-là, lui, est vraiment un empereur de l'après-guerre. Donc il a énormément symbolisé ce Japon apaisé, cette cour impériale tout à fait neutre au niveau politique et qui est avant tout une force morale. Maintenant, celui qui est l'ex-empereur Akihito a fait énormément de choses pour avoir des liens très très forts avec la population. Ça, c'est une première chose. Il s'est énormément rendu auprès des réfugiés, des sinistrés pendant les nombreuses calamités naturelles qu'il y a eu ces dernières années, mais ça, il l'a fait tout au long de sa vie. Il a fait énormément de choses aussi en se rendant, je crois, une cinquantaine de fois à Okinawa pour essayer de penser les plaies de la guerre dans un archipel qui non seulement a été victime de la guerre, encore plus que toutes les autres parties du pays, mais en plus abrite des bases américaines qui constituent une nuisance extrêmement importante. Et il a joué aussi, peut-être toute sa vie, mais en tout cas beaucoup dans les dernières années, un rôle de défenseur de la Constitution, réaffirmant non seulement sa place de symbole de la nation, mais aussi en réaffirmant la nécessité pour le Japon de retirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale et de ne plus jamais entrer en guerre. Donc ça, il l'a fait d'une façon extrêmement active, en restant dans le jeu constitutionnel, mais avec toutes les prérogatives qui lui étaient données en la matière, notamment ses visites sur les champs de bataille de la guerre du Pacifique, notamment à Saipan. Ce sont des choses qui sont restées gravées dans la mémoire d'une façon extrêmement vivace.
Oui, visite à Saipan en 2005, visite aussi à Palau 2015, Philippines 2016. Il a exprimé aussi des profonds remords, je crois. Est-ce que c'est en ce sens, vous disiez, qui s'est le plus peut-être opposé à la politique de revivification nationaliste de Shinzo Abe ?
Oui, bah, certainement. Hein. Le terme qui est utilisé en japonais, c'est le terme de Hansei, qui est un petit peu difficile à traduire par un concept français. Disons qu'il s'agit à la fois de tirer les leçons du passé et de faire en sorte que les erreurs ne soient pas reproduites. Donc il ne s'agit pas véritablement de messages de pardon, ce qui d'ailleurs ne relèverait pas forcément de ses prérogatives. Mais il faut savoir que ce terme de Hansei, en fait, a été récemment retiré des discours du Premier ministre chaque année le 15 août. 1940, le 15 août qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que généralement les premiers ministres le prononçaient, mais l'empereur maintenant les a prononcés d'une façon très très claire. Donc oui, il y a une certaine forme d'opposition, même si évidemment il n'a jamais dit qu'il était opposé au Premier ministre, ce qui serait impossible en vertu de sa fonction.
Et alors justement, concernant le Premier ministre lui-même, il s'est exprimé également hier. Shinzo Abe a dit « Tout en gardant dans nos cœurs le chemin parcouru par l'empereur, nous ferons tous les efforts possibles pour créer un avenir brillant, plein de paix et d'espoir pour un Japon fier. » Est-ce que ce thème du Japon fier, c'est pas un avertissement justement au prochain empereur et une manière de, disons, remettre les pendules nationalistes à l'heure ?
Non, je ne pense pas qu'il lance un avertissement à l'empereur, mais je pense par contre qu'il se sert de cette passation, je ne dirais pas de pouvoir, parce qu'il n'y a pas véritablement de pouvoir, mais de ce changement d'empereur, pour un petit peu en profiter, pour essayer de redorer son image dans le pays. Alors il y a ces mots qui reviennent souvent dans sa bouche, d'un Japon beau, qui va avoir un avenir brillant, et en même temps, évidemment, un message nationaliste un peu qui arrive subrepticement. Mais bon, c'est peut-être un petit peu ce qui a pu paraître choquant pour beaucoup de Japonais, c'est le fait que le gouvernement actuel ait un petit peu essayé de se servir de cette passation pour se mettre en avant, ce qui semble un petit peu, semblait pas très très élégant, voilà.
Oui, alors même que effectivement en ce moment et on en parlait en préparant cette émission hein, mais le Premier ministre japonais fait face à un certain nombre de difficultés d'ordre politique entre certains disons signes de faiblesse économique et puis la question des ministres gaffeurs, là il y en a deux qui ont dû démissionner après deux scandales déclenchés par leurs propos.
Oui, c'est ça, mais on s'aperçoit de plus en plus que le Premier ministre s'est entouré de gens qui paraissent au minimum pas d'une très grande qui ne sont pas vraiment capables d'assurer leurs fonctions. Ça, c'est un premier problème. Le plus gros scandale, même si la faute est toujours rejetée sur la haute fonction publique, sur l'administration, c'est le trucage de statistiques. Et récemment, il y a eu une perte de statistiques concernant les salaires au Japon sur une période de 8 ans, je crois. Enfin, il y a vraiment un certain nombre de bourdes assez lourdes. Et petit à petit, un doute s'insinue dans la tête de la population, selon lequel les trois flèches d'Abenomics auraient été très largement basées sur des statistiques truquées. Alors pour le moment, on ne voit pas de revirement de l'opinion très rapide, mais ça n'est jamais le cas au Japon, mais une petite musique petit à petit qui commence à s'imposer, comme quoi peut-être ce pouvoir, comment dire, ces différents gouvernements Abe, touchent un petit peu à leur fin et qu'une nouvelle époque devrait s'ouvrir peut-être que l'arrivée d'un nouvel empereur, ça va permettre un petit peu à la population d'essayer de voir les choses autrement.
Oui, alors que Shinzo Abe, lui, n'a cessé depuis 2012 de rechercher une légitimation politique à travers des législatives anticipées. Il en a provoqué trois. Là, la prochaine législative, ce serait en 2021, je crois. Mais il y a déjà eu deux législatives partielles à Osaka et Okinawa tout récemment, 21 avril, où son parti, le Parti libéral-démocrate, a perdu. Alors, coup majeur, a dit le Japan Times. Est-ce que ça fait partie, effectivement, des signes de craquement, diriez-vous, de son hégémonie?
Ah, il ne s'agissait pas de législatives, mais d'élections locales. Hein. Il y a eu des élections aux mairies, dans des mairies et dans des conseils et dans des départements. Hein. Il s'agissait de l'équivalent des conseils généraux, si vous voulez.
Alors, quelle portée elles ont, ces défaites?
Elles ont porté que, notamment, ça a été un résultat assez symbolique, le PLD s'est fait complètement laminer à Osaka, qui est quand même, la région d'Osaka est quand même la deuxième grande concentration de population dans le pays, après la région de Tokyo-Yokohama. Plus, en fait, un certain nombre de défaites dans d'autres endroits, donc ça a été une assez grande surprise. Maintenant, le problème, c'est que ces défaites ne viennent pas d'un parti d'opposition qui serait en train de monter dans l'opinion, mais de situations locales extrêmement diverses, avec des partis plus ou moins locaux, parfois ça a été le parti communiste, enfin, etc. Il y a eu des choses très très diverses au niveau local. Ça laisse percevoir une forme petit à petit de lassitude, je dirais, mais Shinzo Abe, depuis qu'il est Premier ministre ou presque, n'a jamais eu un soutien absolument énorme, mais a toujours bénéficié de la décomposition de l'opposition. Et la grande question, c'est est-ce que l'opposition va réussir à renaître de ses cendres?
Eh ben, grande question à poser pour les prochains mois, les prochaines années. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Franck Michelin, auteur de La guerre du Pacifique a commencé en Indochine. On mettra les références de votre livre en ligne. Merci, bonne journée à Tokyo.